Borgia. Chapitre 33. Le filtre d'amour. Après sa nocturne entrevue avec la Maga, Rodrigue Borgia était rentré dans ses appartements de la villa. Nul ne l'avait remarqué. À Tivoli comme au Vatican, comme dans tous les palais ou villas qu'il lui arrivait d'habiter, il y avait des issues secrètes qu'il était seul à connaître. Arrivé dans sa chambre, il examina le minuscule flacon que la sorcière lui avait remis. Il le tourna et le retourna dans ses doigts avec une sourde joie. « Demain, » murmura-t-il avec un soupir brisé, « demain, elle sera à moi. Si cette fille me résistait, je ne sais quel affolement !» Il serra les poings, mais il se calma. « Avec ceci, je la tiens !» La science des aphrodisiaques est éteinte. Elle vivait encore au temps de Borgia. Plus d'une fois, il avait eu recours à elle. Il en connaissait les effets. Il était parfaitement convaincu que, grâce au flacon de la Maga, la vierge qu'il convoitait se transformerait en une fille d'amour. Pendant le reste de la nuit, le vieux Borgia, morne et silencieux, rêva de ces choses et s'exerça à imaginer des raffinements où la passion confinait aux limites de la cruauté. La journée qui suivit s'écoula avec lenteur. Il commanda qu'on le laissât seul. Vers le soir, il fit appeler Pierina, la matrone qu'il avait commise à la surveillance de sa proie. « Dame Pierina, demanda-t-il, où est l'enfant ? Au jardin ? Est-ce bientôt le moment où elle doit remonter à son appartement ? Dans quelques instants. Dites-moi, Dame Pierina, a-t-elle l'habitude de boire le soir en s'endormant ? Elle boit beaucoup, la fièvre sans doute. Que boit-elle ? De l'eau ? L'eau est dans une carafe, la carafe sur une table près du lit. » La matrone, en parlant, regardait fixement le pape. Celui-ci se taisait. Non qu'il hésita. Son désir, simplement, l'emportait loin de la réalité présente. Il rêva ainsi quelques minutes, les yeux à demi fermés. Tout à coup, il fit effort pour revenir à l'entretien. Et il constata que Pierina avait disparu. Il frappa du pied avec impatience, et déjà il saisissait le marteau pour appeler sur le timbre. À ce moment, Pierina rentra. Elle tenait une carafe à la main. Le vieux Borgia sourit. Il y avait dans ce sourire une sorte d'orgueil d'avoir des domestiques si bien dressés à comprendre sa pensée. « J'ai pensé, » dit Pierina, « qu'il fallait vous monter la carafe. J'ai été la chercher. Elle est à moitié pleine d'eau fraîche et limpide. » Elle posa la carafe sur une table, sans que Borgia eût un geste d'approbation. Seulement, il dit, « Pierina, allez donc dire à l'abbé Angelo que je n'ai pas besoin de lui ce soir. J'ai sommeil, et la lecture me fatiguerait. Puis revenez. » La matrone s'éclipsa. Borgia s'approcha vivement de la carafe. D'une main qui ne tremblait pas, il laissa tomber dans l'eau 3 gouttes de la liqueur contenue dans le flacon. L'eau ne changea pas de couleur. Il la flaira, aucun parfum spécial. Alors, il regagna son fauteuil. Lorsque la matrone reparut, son premier coup d'œil fut pour la carafe. Elle attendit en silence, certaine de ce qui devait être fait maintenant. « Vous pouvez vous retirer, Dame Pierina, » lui dit tranquillement le pape. « Je n'ai plus besoin de vous. À propos, reportez donc cette carafe où vous l'avez prise. Que diable voulez-vous que j'en fasse ?» La matrone saisit la carafe qu'elle couvrit ostensiblement d'un pan de son écharpe, comme pour bien indiquer son intention de la cacher. Puis, elle se retira. Enfoncée dans son fauteuil, le pape s'était remis à méditer sur ce qui allait se passer. Puis l'impatience commença à battre sourdement à ses tempes. Il se leva et fit quelques pas, attendant la minute qu'il s'était fixée. Vers 9h30, il sortit de sa chambre et se dirigea aussitôt vers celle de Rosita, marchant d'un pas assuré. Dans un couloir obscur, Pierina se dressa soudain devant lui. « Elle a bu, » murmura-t-elle. « Puis elle s'est bientôt endormie. J'ai fermé la porte. Voici la clé. » Borgia prit la clé. La matrone s'était effacée et disparut. Le pape arriva devant la porte. Il ouvrit lentement, un peu pâli, avec un léger tremblement des mains, la gorge sèche et la respiration courte. Il entra. Une faible lueur éclairait la chambre. Le lit était à gauche, enveloppé de ses grandes courtines de soie brochée. Près de la tête du lit, une élégante petite table supportait un plateau de cristal. Sur le plateau, la fatale carafe et un verre presque vide. Au pied du lit, en retrait de la courtine, une autre table avec un flambeau de cire qui donnait une lumière douce. Il résultait de cette disposition que la jeune fille endormie se trouvait dans l'ombre. Borgia la distinguait à peine. Il devina, plutôt qu'il ne vit, la masse de ses cheveux encadrant son visage, le profil du corps sous la couverture et un bras qui reposait à nu, par-dessus la couverture, un bras d'une blancheur éclatante dans l'obscurité. Il frémit. Alors, il referma doucement la porte et s'avança sur la pointe des pieds. Il se pencha. Comment la réveiller, sinon par un baiser qui la ferait se dresser toute palpitante de la volupté que le philtre lui avait versée? Alors, il chercha la bouche de la jeune fille et sa main se posa brûlante sur son bras. Mais il se redressa, hagard, sa main violemment retirée, ses lèvres n'ayant pas eu le temps de toucher celle de la Vierge. Il se releva, la sueur de l'angoisse au front, les yeux empreints d'une inexprimable terreur. Ce bras qu'il venait de toucher était froid, de cette froideur glaciale qu'ont les cadavres. De cette bouche qu'il cherchait, aucun souffle ne s'exhalait. Il recula et regarda. L'immobilité de la jeune fille était absolue. Les lignes du corps devinées sous la couverture avaient une raideur à laquelle il était impossible de se méprendre. Stupide d'étonnement et d'épouvante, il recula encore jusqu'au pied du lit et saisit le flambeau. Mais il n'osa pas tout de suite éclairer le visage. Il attendit une minute, cherchant à dompter l'impression nerveuse qui le faisait grelotter. Enfin, plus sûr de lui, il s'avança. La lumière tomba sur le visage de la Fornarina. Borgia étouffa l'exclamation d'horreur qui montait à sa gorge. La jeune fille était morte. Ses yeux entr'ouverts étaient déjà vitreux, une pâleur de cire avait blanchi les chairs, et les lèvres, légèrement retroussées par le rictus de la mort, laissaient voir ses petites dents nacrées. Alors, brusquement, comme s'il eût craint d'être surpris dans un assassinat, Borgia éteignit le flambeau. Mais aussitôt, les ténèbres le remplirent d'horreur. Sa main laissa échapper le flambeau. Il recula jusqu'à la porte, respirant à peine, et ce ne fut qu'au moment où il l'eut franchi qu'il reprit peu à peu possession de lui-même. Pendant un laps de temps qui lui parut durer une heure, mais qui fut en réalité de quelques minutes, il demeura là, contre cette porte, écrasé surtout par l'étonnement. Enfin, il se remit. Soigneusement, il referma la porte et mit la clé dans sa poche. Puis, il s'en alla, croyant marcher très vite, essayant de raisonner. « Elle est morte. Le filtre. La vieille m'avait dit 3 gouttes. Morte. Est-ce possible? Qui sait s'il n'y a pas un contrepoison? Qui sait s'il n'est pas temps encore? Morte. S'il y a un contrepoison, la maga seule peut le connaître. » une minute plus tard, il courait vers le gouffre de l'agneau. L'air du dehors le calma un peu, et lorsqu'il arriva à la caverne, il était revenu à cette froideur calculatrice qui était sa grande force. La maga était à l'entrée de sa grotte, regardant fixement dans la nuit.
« Maga !» fit aussitôt le vieux Borgia. « Il est arrivé une chose grave. Peut-être a-t-on versé plus que tu n'avais indiqué. Peut-être toi-même t'es-tu trompé dans le dosage de ton filtre. La jeune fille est malade, très malade. Tu dois avoir un contrepoison. Elle est malade? Elle souffre beaucoup? Je ne sais, Maga. Elle se meurt. As-tu le contrepoison? Elle se meurt? Seulement cela? Maga, le contrepoison de ton filtre, l'as-tu?
Souvent, ces filtres jouent ainsi un mauvais tour à celui qui les emploie.
Maga, gronda le vieux Borgia en secouant le bras de l'étrange sorcière qui, devant la catastrophe, gardait un calme singulier. « Maga, tu n'entends donc pas? Je te dis qu'elle se meurt. Je te dis que je l'ai laissée pour morte. As-tu le contrepoison? Alors, ne dites pas qu'elle est mourante. Dites qu'elle est morte. Et le contrepoison?
Avez-vous vu ses yeux? Comment sont-ils?
Vitreux, sans regard.
Et sa bouche? Avez-vous remarqué sa bouche?
Retroussée, les lèvres livides, tordues.
Encore une question. Les mains, avez-vous fait attention aux ongles?
Les ongles sont cernés de bleu. Le contrepoison, Maga, je suis sûr qu'il est temps encore de la sauver.
La vieille hocha la tête et dit nettement.
Oui. Ah, et le contrepoison, tu l'as, n'est-ce pas?
Oui.
Le vieux Borgia eut un profond soupir de soulagement. Vite, donne.
Non, répondit la maga. Le pape demeura un instant sans voix. Le choc qu'il reçut fut peut-être plus imprévu, plus terrible que celui de tout à l'heure. Il ne comprenait pas. La jeune fille empoisonnée mourait, bien, mais la vieille avait le contrepoison qui pouvait encore ressusciter le cadavre. Il le lui demandait, et elle disait non.
« Voyons, maga, fit-il, croyant avoir trouvé l'explication. « Reviens à toi, tu es dans un moment de folie. »
« Jamais je ne fus moins folle, Borgia. » Le pape frissonna. C'était la première fois que la maga lui donnait son nom. Il eut le sentiment qu'un malheur allait fondre sur lui.
« Et tu ne veux pas me donner le contrepoison? Pourquoi ?»«
Parce que je veux que tu souffres, Rodrigue. »
Cette fois, Borgia fut épouvanté. La voix de la maga se transformait. Cette voix, il lui semblait qu'il la connaissait.
Où? Quand l'avait-il entendue?
Il recula de deux ou trois pas, comme s'il eût vu un fantôme.
« Tu ne veux pas sauver cette malheureuse ?»«
Non, Rodrigue, » répondit la maga, qui, de son côté, s'était reculé vers le fond de la caverne, de sorte que Borgia ne la voyait presque plus.
« Non, je ne veux pas sauver l'enfant. »
« Parce que je te connais. »«
Tu me connais, » répéta-t-il hébété.
« Et je la connais, elle aussi. »
« Écoute, Rodrigue, il y a 16 ans, cette jeune fille fut abandonnée sur les marches de l'église des anges. »«
L'église des anges ?» bégaya le pape.
« La mère, c'était la comtesse Alma, ta maîtresse. » « Et l'enfant que j'ai recueilli, l'enfant que ton désir a failli flétrir, l'enfant que tu as assassiné, Borgia, c'est ta fille. »
Le pape trébucha. Ses jambes se dérobaient sous lui. La voix sinistre de la maga lui entrait dans la tête comme une vrille chauffée à blanc.
« Ma fille !» murmura-t-il. « Et maintenant, veux-tu savoir, Rodrigue ?»
Pourquoi, pouvant la sauver, je ne la sauve pas?
Mais Borgia n'écoutait plus, n'entendait plus. Ivre d'épouvante et d'horreur, il s'était glissé hors de la caverne et se sauvait, au hasard, courbé, chancelant, répétant avec une obstination de folie le mot qui avait frappé son esprit.
Ma fille! Ma fille!
C'est le commencement du châtiment, murmura Rosa Vanozzo.